Nous continuons notre étude dans le livre de Jean, où la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est mise en valeur, est enseignée. La semaine passée, nous avons vu avec Pasteur Richard que Jésus-Christ était en train de donner, en fait, tous les derniers, ces derniers temps, ces derniers chapitres que nous avons regardés ensemble. C'était les chapitres sur des enseignements d'adieu que Jésus-Christ avait donné à ses disciples avant de quitter, parce que l'heure où il va être mis à mort va approcher, il s'approche. Et Jésus-Christ veut donner des enseignements à ses disciples. Et ces enseignements confirment que son départ est très prochain et que aussi il va avoir de la persécution pour ses enfants. C'est ce qui a été dit, et c'est ce que nous avons vu la semaine passée, entre autres, qu'il y aura pour les disciples de la persécution. Il leur dit aussi qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Et dans les versets 15, dans le verset 26 du chapitre 15, l'unité du Père, du Fils, et du Saint-Esprit a été mis en lumière. On avait vu que le Père et le Fils, les deux envoient en mission le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et les trois ont cette même nature. Ils sont Dieu. Il est Dieu. C'est un Dieu en trois personnes. Un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus aussi avait fait cette mise en garde à ses disciples la semaine passée à propos du genre de persécution qu'ils allaient avoir. Il leur a dit qu'ils seront exclus de la synagogue et que l'heure viendrait même où quiconque les ferait mourir croirait rendre un culte à Dieu. Et en comprenant que le Saint-Esprit qui avait été promis allait venir pour accomplir et continuer l'œuvre de Jésus-Christ, on pourrait se poser une question. On pourrait se dire, si Jésus-Christ allait accomplir une œuvre parfaite, pourquoi devrait-il envoyer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il était incertain de la perfection de son œuvre? La réponse est très simple. Jésus-Christ annonce à ses disciples que dans peu de temps, il va accomplir l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. À partir de cette œuvre-là, sa mort et sa résurrection, son sang qui aura été versé à la croix, ça accomplirait l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. C'est à cause de cette œuvre-là, c'est grâce à cette œuvre-là que nous allons, les disciples, aller être sauvés. Mais cette œuvre-là n'aurait pas atteint son but final si les cœurs n'étaient pas transformés, si cette œuvre du salut n'aurait pas été appliquée dans les cœurs pour être transformée et être changée et amener la foi dans cette œuvre de rédemption. Alors voilà pourquoi Jésus-Christ va leur parler de l'envoi du Saint-Esprit qui va continuer cette œuvre-là, qui va les amener à croire dans l'œuvre de rédemption qu'il aura accomplie. Au moment où on se parle maintenant dans l'histoire, dans le récit, c'est que dans quelques temps, Jésus-Christ va donner sa vie. Et pour nous, les chrétiens, on sait que ça a déjà été fait et que le Saint-Esprit a déjà été envoyé. Mais pour l'enseignement de ce matin, Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples ce qui va arriver une fois qu'il sera parti. Et comme nous avons dit, Jésus-Christ va leur promettre d'envoyer le Saint-Esprit. Il dit qu'il va retourner vers le Père, mais il ne disparaît pas. Et son retour vers son Père a un but très précis et s'harmonise parfaitement avec le plan originel de Dieu de toute éternité. Le texte que nous allons lire ce matin, c'est assez long et c'est le chapitre 16 du livre de Jean, les versets 5 à 33. Comme je dis, c'est assez long, mais nous allons en tirer quelques vérités. Et la première vérité qu'on peut voir, on va le diviser en trois sections. On va voir premièrement dans les versets 5 à 15, le départ qui garantit la foi. Dans les versets 16 à 24, nous allons voir la douleur qui enfante la joie. Et dans les versets 24 à 33, nous verrons la révélation qui produit une foi sincère, mais fragile. Et je vous invite à lire avec moi les versets 5 à 15 de Jean chapitre 16. Ça se lit comme suit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, quand on regarde cette portion de l'Écriture, on voit que le verset 5 commence avec une question. Jésus-Christ annonce à ses disciples qu'il allait partir. Et Jésus-Christ, paraît-il, s'attendait à ce que ses disciples posent cette question. Mais où vas-tu? Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux disciples qui ont déjà posé cette question. Et dans chapitre 13, verset 26, c'est Pierre qui pose cette question-là. Il dit, Seigneur, où vas-tu? Et la réponse de Jésus, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Thomas, à son tour, dans chapitre 14, verset 5, il a posé la même question, dans d'autres formes, sous d'autres formes. Et il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, certains commentateurs disent que cette question de Jésus-Christ voulait révéler le cœur égoïste des disciples. Parce que, semble-t-il que dans les deux premières questions de Pierre et de Thomas, c'est comme s'ils protestaient le fait que Jésus-Christ s'en allait et qu'il les abandonnait, alors qu'eux, ils avaient investi 3 ans de leur vie dans le ministère de Jésus-Christ. Mais quand on regarde, moi que je regarde ce texte-là, je ne peux pas conclure, je ne peux pas arriver à cette conclusion. Ce que je peux comprendre, c'est que Jésus-Christ lui-même, quand il pose cette question, déjà il connaît le cœur de ses disciples. Et je vois plutôt quelqu'un qui, comme il est Dieu, il sonde les cœurs de ses disciples, il comprend la tristesse. Et il va le dire dans, plus tard dans le texte, il dit, parce que je vous ai dit ces choses dans le verset 6, la tristesse a rempli votre cœur. Jésus-Christ, à mon avis, il a compris que ses disciples avaient été tristes à cause de l'annonce qu'il avait faite la semaine d'avant, ou bien dans le texte d'avant, parce que il leur a dit qu'ils seraient persécutés. Le maître s'en va, et non seulement qu'il s'en va, les disciples vont être persécutés, il n'y aurait personne pour les défendre, personne pour les accompagner dans cette souffrance-là. Je crois que c'est pour cela que les disciples n'ont pas posé de questions cette fois-ci. Et si vous avez regardé dans les questions qui ont été posées auparavant, quand Pierre pose la question, on avoue que ce n'est pas évident pour un humain de comprendre la réponse de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit, ben, je m'en vais quelque part, ben, tu ne peux pas y aller. Mais non, Seigneur, je veux savoir où tu t'en vas, mais tu ne peux pas y aller. Fait que c'est nébuleux pour un humain de comprendre la réponse de Jésus-Christ. Et plus tard, quand il répond à Thomas pour la même question, il va dire, je suis le chemin, la vérité de la vie. On ne peut pas comprendre ça en tant qu'humain. C'est nébuleux et c'était le cas pour les disciples. Alors, Jésus-Christ va se mettre à continuer cet enseignement-là qu'il va donner. Vous savez que c'est... Il s'en va. Il veut rassurer ses disciples. Il veut les rassurer comme... Même s'il vous leur dit que même s'il n'est pas là, ils ne sont pas seuls. Il y aura quelqu'un, le consolateur, c'est ce qu'il leur annonce. Le consolateur va venir prendre sa place et continuer l'œuvre qu'il a commencée. Alors, Jésus-Christ leur dit de ne pas avoir peur, de ne pas s'attrister, parce qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent au Père. Il leur dit ça dans les versets 7 à 9. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Fait que le Saint-Esprit va venir, il sera envoyé par le Fils et le Père ensemble, de commun accord, mais il aura une tâche particulière, il y a des tâches particulières, et Jésus-Christ prend le temps de détailler ces tâches-là que le Saint-Esprit va avoir à faire, les rôles que le Saint-Esprit va avoir. Premièrement, il dit que en ce qui concerne le péché, c'est que il va les convaincre. Il va convaincre le monde du péché. Il va encore plus loin dans les détails. Plus bas, il va dire, en ce qui concerne le péché maintenant, c'est parce qu'ils ne croient pas en moi. Comment comprendre ça? Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que le péché fondamental de l'homme, c'est de ne pas croire en lui. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, qui est le sauveur, qui est l'agneau immolé pour pardonner nos péchés, comment est-ce qu'on va obtenir son pardon? On ne pourra pas obtenir son pardon. Fait qu'on est voué à l'éternité dans l'enfer. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples, que le Saint-Esprit va avoir ce rôle-là. Quand il va venir, il va convaincre le monde qu'il est la vérité, qu'il est le sauveur et qu'il va falloir croire en lui. Le Saint-Esprit a vraiment ce rôle de convaincre. Nous dit, c'est le rôle que Jésus-Christ leur dit qu'il va accomplir une fois qu'il sera venu. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons vécu ça déjà. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous savons que c'est le rôle du Saint-Esprit. Et Jésus nous le rappelle ce matin que le Saint-Esprit, premièrement, il y a un rôle de conviction. Il nous convainc d'abord que Jésus-Christ, c'est lui-même, c'est sans péché. Il nous convainc que si on ne croit pas en Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre salut, notre chemin de salut pour nous. Le péché de l'homme, le péché fondamental de l'homme, c'est l'incrédulité. De ne pas croire en Jésus-Christ et le Saint-Esprit va avoir ce rôle-là, de nous faire réaliser que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il va faire premièrement pour le monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, le sang qui ne sont pas au Seigneur, qui ne croient pas au sacrifice de Jésus-Christ, ils ne croient même pas en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va faire cette œuvre-là, premièrement, pour les convaincre que Jésus-Christ a été celui qui a été désigné par Dieu pour sauver l'humanité. Il va convaincre le monde que ne pas croire en Jésus-Christ, c'est le plus grand péché. et de se tourner vers Jésus-Christ. Il va leur faire comprendre que sans l'action de Jésus-Christ, le monde ne peut pas croire en Jésus-Christ. Sans l'action du Saint-Esprit, le croyant que nous sommes, on ne peut pas avancer dans la sanctification. Fait que le Saint-Esprit est au cœur de notre salut. Non seulement il nous convainc de péché, nous convainc de la laideur du péché et de nous tourner vers Dieu, il nous pointe le chemin vers la repentance. Et c'est ce qu'il va faire en premier, le Saint-Esprit. Il va avoir ce rôle-là de convaincre, de nous convaincre que Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est Dieu. Et puis, il faut se tourner vers lui parce que c'est lui qui est le sauveur du monde. Nous avons besoin de lui. On ne peut pas aller au ciel sans Jésus-Christ. Il va convaincre le monde aussi de la justice. Et le Saint-Esprit a ce rôle-là de nous convaincre que Jésus-Christ a accompli toute la loi. S'il y a quelqu'un qui n'avait pas péché, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui le rappelle aux Corinthiens, il le dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pour nous péché, afin que nous devenions justice de Dieu. » Plus tard, dans Hébreux, il va dire, « Car nous n'avons pas un sacrificateur, souverain sacrificateur, qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, mais au contraire, en parlant de Jésus-Christ, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. » Alors, Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu qui n'a pas connu de péché, et le Saint-Esprit a ce rôle-là de nous convaincre de cette justice, que Jésus-Christ est l'homme Dieu et l'homme qui est juste. C'est ce qu'il fait après son arrivée, on le voit après le jour de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, toutes les actions du Saint-Esprit de convaincre les pécheurs, même de se convertir parce qu'ils ont besoin du Seigneur. Il fait cette œuvre-là, et pour nous, il continue de le faire aussi en tant que ses disciples. Mais comment est-ce que les sacrificateurs, les anciens, les dirigeants de l'Église, de synagogues, disons, les chefs religieux dans le temps de Jésus-Christ, ont vu Jésus-Christ? Si le Saint-Esprit doit faire cette œuvre-là de conviction que Jésus-Christ est juste, Jésus-Christ apporte la justice, et les chefs religieux n'étaient pas convaincus de cela. Comment est-ce qu'ils ont vu Jésus-Christ? Dans certains textes, on voit dans Jean chapitre 5, verset 18, que on le voyait, Jésus-Christ, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les chefs religieux, ont vu en Jésus-Christ un homme pécheur. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Pour eux, le fait qu'un homme, qu'un humain, se fasse égal à Dieu, c'est un blasphème. Et ils ne voulaient pas croire en Jésus-Christ comme étant quelqu'un qui vient de Dieu, comme étant le juste. Plus tard, ils vont le qualifier comme étant un démon. Et plus loin encore, il va dire que ce gars-là, il est pas le fils de Dieu parce qu'il n'observe pas le sabbat. Fait qu'aux yeux des chefs religieux, Jésus-Christ n'était pas cet homme juste. Et le Saint-Esprit va convaincre son œuvre quand il va arriver. Quand il va venir après la Pentecôte, le Saint-Esprit va convaincre tout le monde que c'est Jésus-Christ, et il va les convaincre de la justice de Dieu, que Jésus-Christ est sans péché et que c'est lui que Dieu a décidé pour sauver l'humanité. C'est lui qui va nous guider dans la vérité. Dans le verset 13 qui est devant nous, quand le texte nous dit que le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute vérité. Il va nous dire toute la vérité au sujet de Jésus-Christ, qu'il est le juste et que Dieu a accepté son sacrifice. Nous pouvons vraiment être assurés que nous pouvons être sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ parce que Dieu a accepté son sacrifice. Dieu l'a glorifié. Maintenant, nous dit le texte, il est assis à la droite du Père. Et s'il peut être assis à la droite du Père, c'est que Dieu a accepté son sacrifice et que lui, il est considéré comme un Dieu juste et il est parfait. Il peut nous rendre justes, il peut nous faire de nous des hommes et des femmes justes et approuvés par Dieu pour avoir le pardon de nos péchés et passer l'éternité avec lui. Le Saint-Esprit, premièrement, il va convaincre de croire en Jésus-Christ et l'incroyant et le croyant, pour continuer dans la sanctification. malgré les épreuves qui leur seront infligées, les souffrances qui seront infligées aux disciples après le départ de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va les convaincre que ça vaut la peine de rester, de persévérer, parce que la récompense est à venir, nous allons le voir dans la prochaine section. Le Saint-Esprit convainc aussi de jugement. Et Jésus-Christ leur dit de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et je ne sais pas si vous le savez, que toutes les souffrances et les persécutions qui sont infligées aux disciples sont commandées par les princes de ce monde. C'est Satan qui est en arrière de toutes ces souffrances que le monde connaît. Mais Jésus enseigne que le Saint-Esprit, il va convaincre les disciples que Satan est déjà jugé et que c'est Jésus-Christ lui-même qui va avoir la victoire finale. Nous pouvons être heureux ce matin que c'est Jésus-Christ qui va avoir la victoire finale, malgré les circonstances que nous pouvons vivre, les souffrances que nous pouvons vivre, qui nous sont infligées, soit dans notre corps corporellement, ou bien dans nos relations et partout, dans tout ce qu'on vit. Nous pouvons être rassurés que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va nous aider à passer à travers. Et celui qui est le prince de Dieu de ce monde, Satan, est déjà vaincu, et Jésus-Christ l'a vaincu à la croix, et Jésus-Christ va le déclarer. Le jugement du diable est arrêté, nous dit le texte, Jésus-Christ dit, il est le prince de ce monde, est déjà jugé, il est jugé. Fait que Jésus-Christ nous confirme cela, et le Saint-Esprit va nous appliquer ça dans le cœur pour qu'on soit vraiment sûr et rassuré que vraiment Jésus-Christ est l'élu de Dieu, il est sans péché, il y a la victoire sur Satan, et tout ce que nous pouvons vivre maintenant, aujourd'hui, là, c'est pour un temps. Ça, c'est pas pour l'éternité, c'est juste pour un temps. Et dans le prochain, dans la prochaine section, nous allons voir comment Jésus-Christ va rassurer ses disciples par rapport aux souffrances qu'ils vont subir après son départ. Premièrement, il va envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convaincre, premièrement, de péché. Ça veut dire qu'il va convaincre le monde de croire en lui, qu'il est Dieu, qu'il est le seul capable de sauver. J'espère que tu as cette conviction ce matin, que Jésus-Christ est ton sauveur et que tu as ta place dans le ciel à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il va convaincre aussi, nous avons dit, de la justice, que Jésus-Christ est juste. Jésus-Christ n'a pas péché en lui. Il s'est fait pécher pour nous, mais il n'a pas commis de péché. C'était dans le plan de Dieu que Jésus-Christ vienne pour nous sauver. Il est l'élu de Dieu qui a été désigné depuis le commencement pour réconcilier le monde avec Dieu le Père. Nous voyons aussi dans l'œuvre de cet esprit qu'il va convaincre le monde et le chrétien que le jugement du diable est déjà exécuté. Le Satan est déjà vaincu. Jésus-Christ l'a déjà annoncé. Jésus-Christ, c'est lui le juge, c'est lui qui va le condamner. Et nous n'avons pas à craindre ce que les flèches que l'ennemi peut nous envoyer. J'espère que vous avez cette confiance-là en notre Seigneur Jésus-Christ, que les souffrances de ce monde, tout ce qu'ils peuvent vous envoyer par ce que Satan peut envoyer pour nous faire du mal, et Jésus-Christ va le juger, il va rendre compte. La prochaine section, dans les versets 16 à 24, nous lisons comme suit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, encore de temps, un peu de temps, vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi qu'il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde, dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Cette portion-là, je l'ai intitulée « La joie, la souffrance qui enfante la joie ». Nous voyons ces questionnements-là des disciples par rapport à Jésus-Christ face à son enseignement. Jésus-Christ leur dit qu'en peu de temps, vous allez voir, en peu de temps, vous ne me verrez plus. Fait qu'on voit une certaine confusion, n'est-ce pas, au niveau des disciples. Peut-être que si j'étais à leur place, je serais également confus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne serai pas là, mais vous allez me voir après, et puis après. Non, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Et ils se posaient des questions dans leur intérieur. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et on comprend cette situation où les disciples sont vraiment dépassés par ces propos de leur Seigneur Jésus-Christ, sur ces enseignements de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, nous dit le texte, il connut ce qu'il voulait l'interroger. On voit, ça révèle la divinité de Jésus-Christ qui connaît les cœurs, que seul Dieu peut connaître nos pensées. Et les disciples, ça va faire un effet sur eux, on va le voir dans la prochaine paragraphe. Cette fois-ci, Jésus-Christ ne s'attend pas à une question comme il voulait, il s'attendait à une question de leur part dans la première partie qu'on avait lue dans le verset 5. Il s'attendait dans le verset 5 que les disciples, en entendant que le maître allait s'en aller, qu'ils se posent des questions par rapport à sa destination. Mais maintenant, les disciples, je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas posé la question. Ça trottait dans leur tête qu'ils voulaient poser une question, mais ils ne l'ont pas posée. Et peut-être qu'ils avaient peur de ne pas comprendre ce que le Seigneur leur aurait donné comme réponse. Mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas posé la question par rapport à l'enseignement que Dieu leur donne. Mais ils sont confus. Mais Jésus-Christ, étant Dieu, il comprend leur confusion et il va adresser exactement la question pour eux. Et il va leur expliquer en long et en large pourquoi il a parlé comme ça. Il dit en vérité, maintenant vous allez pleurer et vous serez dans la tristesse. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ leur a annoncé précédemment. Il leur a dit qu'une fois que je serai allé, vous allez être attristé, vous allez être persécuté. Et on comprend que la persécution va amener beaucoup de tristesse. Mais Jésus-Christ leur répond de façon imagée, dans un langage qu'ils connaissaient un peu mieux. Et l'image que Jésus-Christ utilise dans le verset 21, c'est l'image d'une femme. Une femme qui enfante et qui éprouve beaucoup de tristesse. Est-ce que c'est vrai, les femmes? Ouais. Beaucoup de douleur, je veux dire, beaucoup de douleur. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai observé ma femme qui a eu 4 enfants. Donc, je sais qu'il y a quelque part, et il y a beaucoup de douleur. Mais cette douleur-là est temporaire. Temporaire. Dans quelques heures, quand elle aura mis au monde, elle a mis au monde les enfants, on oublie tout. Elle a tout oublié. C'est une chose que j'ai l'expérience de toutes les femmes qui ont eu des enfants. Et le Seigneur va utiliser cette expérience, cette image-là, pour démontrer, pour calmer l'esprit de ses disciples. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, en entendant la nouvelle, l'annonce qu'ils seront persécutés, ils étaient troublés, ils étaient attristés. Et maintenant, le Seigneur veut les réconforter, Jésus veut leur donner courage, leur remonter le moral. Vous allez être persécutés, mais c'est pour un temps, c'est temporaire cette persécution. Et il prend l'exemple de la femme qui souffre pendant quelque temps avant de mettre un enfant au monde. Et puis après tout, elle oublie tout à cause de la joie que l'enfant qu'elle a mis au monde procure. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. C'est la même chose pour les disciples qui allaient être persécutés. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens qui peut-être sont persécutés présentement ou bien qui seront persécutés. Et la Bible nous dit que la seule chose qui est garantie pour le chrétien qui veut vivre pieusement, c'est la persécution. Un chrétien qui veut vivre pieusement, c'est ce que l'apôtre Paul annonce à Timothée. vous serez persécutés. Et Jésus-Christ ne cache pas cela à ses disciples. Mais, pour les aider à passer à travers ça, il y a le Saint-Esprit, le Consolateur qui va être là pour les aider à passer à travers tout ça. Et n'oublie pas que le Consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, dans Matthieu 28, il va dire, « Je suis avec vous tous les jours. » Il ne disparaît pas, il est là. Son œuvre continue. Il a le Saint-Esprit pour appliquer cette œuvre-là dans nos cœurs. Et c'est ce que Jésus-Christ enseigne à ses disciples ce matin, et c'est ce qu'il enseigne à Rosemont, à chacun de nous qui croit dans son nom pour avoir la vie éternelle. Les persécutions d'aujourd'hui sont temporaires. Les difficultés d'aujourd'hui sont temporaires et que bientôt, très bientôt, nous allons la joie de le voir. Dans ce texte-là, je pense qu'il y a deux volets. Il parle premièrement de sa résurrection, de sa mort, de la résurrection, parce que ses disciples-là, comme on dit maintenant, là où l'histoire se passe, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Il est à veille d'être crucifié. Fait que une fois qu'il sera crucifié, comme nous connaissons l'histoire, Jésus-Christ leur dit, je serai plus là pendant un temps. On comprend que il va être mort, il va être enseveli, mais il dit plus tard, je vais être ressuscité. Alors, les disciples semblent avoir compris cela, que bientôt, et Jésus-Christ, ils vont le comprendre plus tard, bien entendu, que Jésus-Christ va être absent pour un temps, il va ressusciter après sa résurrection. Jésus-Christ va être ressuscité plus tard. Mais aussi, je pense que non seulement qu'il parle de sa résurrection dans quelques temps, dans quelques jours, quelques mois, dans ce contexte-là, il parle aussi de son retour futur, n'est-ce pas? De son retour où, pendant un temps, les disciples, les chrétiens que nous sommes, nous allons rester, on va dire, seuls. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il nous envoie ce Consolateur-là, pour nous aider à passer à travers ce temps-là, en attendant qu'il revienne nous chercher. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Quand les disciples, nous allons dans Actes, quand les disciples sont restés, se sont réunis après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et le texte nous dit dans Actes chapitre 1, verset 10 et 11, je prends le temps de lire, quand Jésus-Christ allait monter au ciel, ses disciples-là étaient là figés, ayant, comme le dit verset, comme ils avaient les regards fixés dans le ciel, pendant que Jésus-Christ s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même façon que vous l'avez vu allant au ciel. » Fait que les disciples vont observer ça. Les disciples qui étaient là ont observé que Jésus-Christ est monté au ciel et la promesse qu'il leur a faite, c'est que Jésus-Christ va revenir. Et ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ s'inscrit dans cet enseignement qu'il donne ici dans le chapitre 16, où premièrement on parle de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection, mais aussi son retour final à la fin des temps. Jésus-Christ ne nous laisse pas dans l'inconnu. Il nous donne toute sa révélation, ce qui va arriver. Et dans Apocalypse, dans chapitre 19, verset 7, il parle de son retour. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et l'épouse de Jésus-Christ est son église. Nous avons cette assurance que nous allons avoir la joie de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux pour l'éternité et partager l'éternité avec lui. Ça, c'est l'assurance que nous avons en tant que chrétiens. C'est l'assurance que Jésus-Christ nous donne avant de partir. Il n'est plus là physiquement, mais il est là par son Saint-Esprit. Il agit en nous, il continue de nous enseigner et c'est ce qu'il fait à travers cette parole ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Ça, c'est la question. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter et faire confiance à ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui a toute la puissance, ce Dieu qui a donné son sang et qui va venir bientôt pour nous chercher? Est-ce que nous avons cette espérance-là de passer l'éternité avec lui? J'espère que vous avez cette espérance-là ce matin. Et si vous n'avez pas cette conviction que vous êtes sauvés ce matin par la foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à ne pas quitter cette place avant d'avoir la conviction que vous êtes sauvés. Le texte continue pour nous dire l'enseignement que Jésus-Christ... N'oublie pas que tout le chapitre 16 et les 17, 15, à partir du chapitre 14, là, c'est Jésus-Christ qui fait son secours, son discours, son enseignement d'adieu, parce qu'il va s'en aller bientôt. Et maintenant que les disciples ont compris, d'après l'enseignement de Jésus-Christ, que et les tourments, les persécutions dont ils avaient peur, ce sera pour un temps, Jésus-Christ va continuer pour leur enseigner. Il leur dit, mais maintenant vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous avez cette relation-là avec notre ton Père, le Père, mon Père, et il va mettre en évidence la relation intime qu'il y a entre le Père et le Fils et les disciples. Et il les invite à dire, à demander. Il dit, il vous demandera, il vous donnera en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Parce que les disciples vont finalement comprendre comment demander. Ils vont demander selon le Jésus-Christ. Dans le verset qui suit, dans les versets 25 à 33, et nous finissons avec ce texte-là, Jésus-Christ continue son enseignement pour dire que je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, je m'en vais au Père. Les disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin de personne, que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur dit, vous voyez maintenant, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme si ce n'était pas assez, Jésus-Christ finit ce chapitre-là, le texte termine avec cette mise en garde pour les chrétiens, pour les disciples. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme nous avons vu, les disciples à travers les temps, à travers tout le Nouveau Testament, ils n'ont pas toujours compris les paroles, les enseignements de Jésus-Christ. Et même nous aussi, quand on lit ces textes-là, il nous est difficile de comprendre, à moins que Jésus-Christ nous les explique. Et c'était la même situation pour les disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre, parce que Jésus-Christ les parlait en parabole. Et l'Ancien Testament nous avait dit ça, que le fils de l'homme, quand il va venir, il va parler en parabole. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fait. Mais un temps viendra, dit Jésus-Christ dans ce texte-là, un temps viendra où il ne parlera plus en parabole et que c'est tout ce qu'il va parler directement. Et nous comprenons que ce temps-là, c'est le temps de la venue du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit à la Pentecôte va arriver, les disciples, on connaît les actions dans les actes des apôtres, comment ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont compris vraiment l'œuvre de Jésus-Christ, au point que l'apôtre Pierre qui avait peur de se faire identifier comme étant un disciple de Jésus-Christ. Là, il s'est mis debout à faire tout un discours devant un peuple. Il est parti, on l'a mis en prison, il n'y avait aucun problème avec ça. L'apôtre Pierre, il met en prison, il allait se faire couper la tête comme l'apôtre Jacques. Et puis, la veille de cet événement-là, il dormait au point qu'il a fallu que l'ange le donne un coup de coude là pour le réveiller. Il était en paix, malgré la situation qu'il attendait. Il s'attendait à ce que le roi Hérode lui coupe la tête, comme le roi Hérode avait coupé la tête à Jacques. Et c'est ça, c'est cette paix-là que le Saint-Esprit donne à chaque croyant. Malgré les tribulations, le Saint-Esprit nous donne cette paix-là que nous ne sommes pas seuls dans nos situations, que Jésus-Christ est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et le texte va nous dire même que Jésus-Christ dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Nous avons un modèle qui marche. Jésus-Christ a vaincu le monde. Nous n'avons pas à peur du monde, malgré les tribulations qui peuvent joncher nos chemins. Quelque chose que nous remarquons dans le verset 25, c'est que Jésus-Christ prit le temps de parler à ses disciples, de leur expliquer des choses, de leur donner un autre enseignement par rapport à sa relation entre lui et le Père et les disciples. Il dit, un jour viendra où je ne vous parlerai plus en parabole. En ce jour-là, je vous demanderai en mon nom et je ne prierai plus le Père pour vous. Car le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus-Christ leur parle de sa relation intime avec le Père, que le Père l'aime, le Fils aime le Père et le Père aime les disciples. C'est une relation que nous avons peut-être tous besoin de comprendre à quel niveau nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Quand on parle de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les trois sont de commun accord pour nous faire du bien, pour nous accompagner à travers nos difficultés, à travers nos tribulations. Et Jésus-Christ voulait faire passer ce message-là. Et sans l'envoi du Saint-Esprit, on l'avait dit tantôt, sans l'arrivée du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que les disciples n'arrivaient pas à comprendre. Et nous aussi, sans l'action du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ça prend l'action même du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Et c'est pour cela que nous sommes invités à passer du temps dans cette parole-là et demander au Saint-Esprit de nous éclairer. On ne comprend jamais assez cette parole et Dieu veut nous instruire, veut nous enseigner à travers ces paroles-là. Et le Saint-Esprit est à notre portée aujourd'hui pour nous aider à comprendre les enseignements qui sont donnés dans sa parole. Après l'envoi du Saint-Esprit, il va faire son œuvre. Cette relation entre les disciples va changer parce qu'ils vont avoir compris même les paraboles que Jésus-Christ leur avait enseignées et qu'ils ne comprenaient pas avant. Mais maintenant, grâce au travail du Saint-Esprit, ils vont comprendre. Et ce qu'il a dit dans ce texte-là, c'est que c'est comme si Jésus-Christ leur permet à leurs yeux de s'ouvrir. Et ils comprennent d'un coup le discours de Jésus-Christ qui dit « Je suis sorti du Père ». Je suis venu dans le monde, et maintenant, je quitte le monde, je m'en vais au Père. Avant, les disciples probablement comprenaient que Jésus-Christ était un simple charpentier, le fils de Marie et de Joseph, qu'ils ont connu pendant 3 ans. Mais là, après avoir entendu cet enseignement de Jésus-Christ, ils ont enfin compris que Jésus-Christ n'est pas ce Jésus-Christ de Nazareth qu'on prétendait comprendre comme étant un homme. Il est sorti du Père, il vient du Père, et il avait une mission à accomplir dans ce monde. Cette mission-là va s'accomplir dans quelques temps. Après cela, il va retourner au Père. Fait qu'on voit cette relation, cette divinité, dans toutes ces actions-là que Jésus-Christ, cette relation intime. Comment est-ce qu'un humain peut avoir cette relation intime avec Dieu le Père? Personne ne peut l'avoir. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous permettre d'avoir cette relation quand on se tourne vers lui, parce que le Saint-Esprit a cette œuvre de nous réconcilier avec Dieu, parce que par nature, nous sommes des enfants de la rébellion, nous sommes des enfants du diable. Mais le Saint-Esprit va nous convaincre de cette vérité que Jésus-Christ est un roi, Jésus-Christ est Dieu, et que son sacrifice est suffisant pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous permettre de passer l'éternité avec lui. Les disciples ont finalement compris, après cette explication de cet enseignement de Jésus-Christ, de sa relation entre lui et le Père, Jésus-Christ leur parle directement. Cette fois-ci, il ne parle pas en parabole. Je ne sais pas pourquoi les disciples ont dû avoir. C'était pour moi, je crois, c'est une grâce que Jésus-Christ leur a faite de comprendre que maintenant, là, Jésus-Christ ne parle pas en parabole. Ils ont saisi dans cet enseignement-là, dans ces 3 versets-là, quand Jésus-Christ explique sa relation avec son Père et la relation des disciples avec Dieu, son amour et tout cela. Ils ont compris quelque chose. Et pour eux, pour moi, je crois comprendre que c'est une révélation que Jésus-Christ leur a permis d'avoir de la compréhension de son œuvre. Il a expliqué sa mission. Il a expliqué clairement son Père. Il a expliqué sa destination. Il va expliquer aussi que bientôt, je vais retourner au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Ils ont compris tout l'enseignement de Jésus-Christ. Et en plus de cela, c'est que je comprends à partir de ce texte-là, que non seulement qu'ils ont compris que Jésus-Christ et son Père, c'est une même personne, c'est une unité, Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont compris ça, parce que Jésus-Christ s'en va vers le Père, il vient du Père, fait qu'ils ont compris cela, que c'est Dieu. Mais il y a une chose qui est intéressante de voir. Il y a quelque chose qu'ils ont compris et ils le disent là. Jésus-Christ, dans le texte que nous avons vu précédemment, ils avaient des questions dans leur tête. Ils avaient des questions dans leur tête. Ils ne l'ont pas dévoilé. Et Jésus-Christ savait qu'ils avaient les réponses, des questions, ces questionnements dans leur tête. Et que quand ils ont compris, hein, ils ont vu Jésus-Christ répondre à leurs interrogations qu'ils n'avaient même pas exprimées, là, ça les a réveillés. Comment est-ce qu'il peut savoir ce qui est dans ma tête? Comment est-ce qu'il peut comprendre que j'avais des questionnements? Je crois que cette révélation du Père et de sa mission, en plus du fait que Jésus-Christ a pu répondre à leurs questions qu'ils n'avaient même pas exprimées, ça les a convaincus vraiment que, hey, Jésus-Christ, c'est Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui sait tout. Alors, ils ont décidé, ils ont eu cette grâce-là de lui faire confiance, de mettre leur foi en lui. Et il leur dit, il le déclare ouvertement. Il dit, maintenant, le verset 30, maintenant, en droite, si on commence avec le verset 29, ses disciples disent, voici maintenant, tu nous parles ouvertement. Tu n'emploies plus aucune parabole. Fait qu'ils ont compris, c'est clair là. La mission de Jésus-Christ, ils l'ont compris. Ils ont vu aussi que Jésus-Christ peut répondre à leurs interrogations non mentionnées. Fait que, il continue pour dire, nous savons maintenant, à partir de cela, que tu connais toutes choses, tu sais toutes choses. Ils ont été convaincus de l'omniscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que tu n'as pas besoin de quiconque pour t'interroger. C'est pour cela que nous croyons. Est-ce que nous croyons en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que nous avons cette espérance, cette foi, cette confiance de la personne, cette compréhension dans la personne de Jésus-Christ, qu'il n'est pas juste un homme, ou bien quelqu'un qui est passé dans l'histoire? Non, c'est Dieu même, fait chair, qui est venu habiter parmi nous pour nous donner la vie éternelle. Et l'apôtre Jean va dire, nous l'avons la vie éternelle. Est-ce que tu es sûr d'avoir cette vie éternelle? Dieu nous l'accorde gratuitement dans la personne de son Fils Jésus-Christ si on veut lui donner notre cœur. Le sacrifice, le plan du salut a déjà été accompli. Le Saint-Esprit est là pour l'appliquer dans nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre la nécessité d'adhérer à ce programme de salut que Jésus-Christ avait mis en place pour nous. Et j'espère que vous allez, si vous ne l'avez pas fait, vous allez faire prochainement pour assurer votre salut dès maintenant, parce que la Bible nous parle de cette paix que nous pouvons avoir maintenant et que nous pouvons vivre dans les lieux célestes à partir de maintenant. Mais Jésus-Christ va terminer pour leur dire, là, c'est bien beau que cette révélation-là, hein, que vous avez compris que je suis dans le Père est en moi, vous avez compris cette relation intime entre mon Père et moi, c'est bien beau que vous avez compris que je suis divin parce que je peux voir dans votre esprit, je vais sonder votre âme et comprendre vos questionnements. Oui, mais vous savez, cette foi-là est fragile. Cette foi est très fragile. Elle est sincère parce que vous avez été convaincu que je suis Dieu, que je viens du Père et que je m'en vais vers le Père, que le Père et moi, nous sommes un. Vous avez été convaincu de cela. Mais cette foi-là est fragile. Elle a ses limites. Et je pense que les disciples ont été choqué d'entendre ça. Et Jésus-Christ va leur dire, voici l'heure dans le verset 32, voici l'heure, et elle arrive déjà, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est en moi. Les disciples, pour moi, sont choqués d'entendre ça. Mais Seigneur, on vient de dire qu'on croit en toi, on sait que tu es le Fils de Dieu. Tu sais toutes choses. Nous croyons en toi. Mais il y a un test, il y a une épreuve que leur foi naissante n'a pas pu résister. C'est cette épreuve de la crucifixion. Jésus-Christ leur annonce, vous allez m'abandonner. Mais non, Seigneur, on ne peut pas t'abandonner. On t'aime. Non, vous allez m'abandonner. Et Jésus-Christ l'a compris. Jésus-Christ, c'est Dieu, il leur a dit cela. Mais au lieu de les écraser, de leur donner des reproches, mais qu'ils sachent qu'ils allaient être dispersés, qu'ils allaient l'abandonner à la croix, notre Seigneur, avec le cœur compatissant qu'il a, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous aurez des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et même quand vous m'aurez laissé, je ne suis pas seul, car le Père est moi. nous sommes, le Père est avec moi. Voilà l'encouragement que Dieu donne à ses disciples, qui peut-être se sentent écrasés parce que Jésus-Christ leur annonce cette nouvelle où ils vont le laisser tomber dans quelque temps. Bien qu'ils aient une foi de sa personne, mais cette foi-là est naissante, elle n'a pas encore maturé. Et Jésus-Christ leur avoue que vraiment, dans quelque temps, vous allez être dispersés. Et l'histoire, la Bible nous raconte que les disciples vont l'ont vraiment abandonné à la croix. Mais puisque Jésus-Christ a prié pour eux, Jésus-Christ, comme on va dire dans le chapitre 17, il a prié pour eux, il va prier pour leur faiblesse, et il va leur donner une deuxième opportunité de se consacrer au Seigneur, de lui demander pardon. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que l'œuvre du Saint-Esprit va faire dans le cœur du croyant. Il va permettre au croyant de reconnaître sa faiblesse, de se tourner vers Dieu et de comprendre que Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. En fait, il veut pardonner nos péchés. Il a fait le sacrifice nécessaire pour le pardon de tous nos péchés. Il l'a déjà accompli. Maintenant, le Saint-Esprit veut appliquer cette compréhension du salut dans nos cœurs. Est-ce que nous comprenons que Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a fait, est seulement simple et suffisant pour nous amener vers le Père? J'espère que vous avez cette conviction. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous ne l'avez pas, vous lui demandez, il va le faire. Et Jésus-Christ de finir pour dire que cette tribulation-là, il faut prendre courage. Vos tribulations, c'est temporaire. Dieu nous demande de prendre courage, de supporter cette tribulation parce que c'est pour un temps. Ça ne durera pas longtemps. Et Jésus-Christ leur confirme qu'il a vécu le monde. Et je termine avec ce texte que l'apôtre Pierre, que nous connaissons très bien, qui a été aux côtés de son Seigneur et qui a raté le test, disons, lorsqu'il a été confronté par la servante. Voilà ce que l'apôtre Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, le Consolateur, voilà ce qu'il écrit à ses frères, à ses sœurs, à Rosemont ce matin, pour nous rappeler les grâces du salut. Il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais ces épreuves-là ont un but. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie infaillible et glorieuse. Voilà l'information, l'enseignement que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous donnent ce matin. De donner grâce, de ne pas nous décourager, que c'est Jésus-Christ est avec nous. Il va nous garantir, c'est par la puissance qu'il nous garde dans la foi, par son Saint-Esprit, il nous garde dans la foi, et que les persécutions, les tristesses, les diverses épreuves auxquelles nous faisons face, c'est pour un temps, de ne pas lâcher prise, de garder notre foi, parce que Jésus-Christ, quand nous aurons persévéré à travers ces temps difficiles, le résultat c'est la louange et la gloire lorsque Jésus-Christ reviendra et il ne tardera pas à venir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.